Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Roréa. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 30 Charivar, 1402 du calendrier iranien, 21 septembre 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. La libération des prisonniers américains montre les motivations humanitaires de l'Iran, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. Les sionistes cherchent à détruire l'image du judaïsme, a déclaré le président Raisi aux rabbins antisionistes. Téhéran salue l'accord entre la République d'Azerbaïdjan et les séparatistes soutenus par l'Arménie. Amir Abdollahian et Borrell discutent de la relance du plan global d'action conjoint à New York. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, a rencontré les rabbins antisionistes à New York en marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président iranien a rencontré mercredi des rabbins du groupe religieux Netori Karta qui s'opposent au sionisme et appellent au démantèlement d'Israël. Les sionistes cherchent à ternir l'image du judaïsme, et cela alors que nous pensons que les juifs sont différents des sionistes, a déclaré le président Raisi, appréciant la mission du groupe consistant à faire la différence entre leur foi religieuse et le sionisme. Nous n'avons aucun problème avec le judaïsme et la Torah, a déclaré le président iranien, soulignant que les juifs sont libres de pratiquer leurs rites et leurs pratiques religieuses en Iran. Notre problème, ce sont les sionistes, a-t-il déclaré. La République islamique d'Iran s'oppose à l'oppression des gens sous couvert de quelque religion que ce soit, a-t-il souligné. Le ministère iranien des Affaires étrangères a salué l'accord conclu entre la République d'Azerbaïdjan et les séparatistes soutenus par l'Arménie sur un cessez-le-feu proposé par la Russie dans la région du Haut-Karabakh. Mardi 19 septembre, la République d'Azerbaïdjan a lancé une opération militaire au Haut-Karabakh, accusant les forces soutenues par l'Arménie de bombardements systématiques, d'activités de reconnaissance, de fortifications de positions défensives et de haut niveau de préparation au combat. Les forces séparatistes arméniennes ont rapporté plus tard que la médiation du commandement du contingent russe de maintien de la paix stationné dans la région avait abouti à l'accord des deux parties sur la trêve. Lors d'une réunion mercredi 20 septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, se sont entretenus des moyens de poursuivre les négociations sur la relance du plan global d'action conjoint, étant bloqué depuis plusieurs mois en raison de divergences persistantes entre l'Iran et les États-Unis, a fait savoir le communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères. Hossein Amir Abdollahian et Joseph Borrell ont mis l'accent sur l'importance de la poursuite du dialogue et de la pleine mise en œuvre des engagements par toutes les parties du plan global d'action conjoint. À ce propos, le haut responsable de l'Union européenne, en sa qualité de coordinateur des pourparlers de relance du plan global d'action conjoint, a fait part de sa volonté de donner suite aux négociations et de tenir des consultations nécessaires.
Le président syrien Bachar el-Assad est en Chine actuellement. C'est sa première visite depuis 12 ans, et surtout depuis la guerre et les sanctions étrangères qui ont cherché en vain à balkaniser la Syrie. Pékin affirme que le voyage de Bachar el-Assad portera les relations bilatérales à un nouveau niveau. Les services de communication de Bachar el-Assad ont indiqué plus tôt que le dirigeant syrien avait été invité par son homologue chinois et que le président Assad amènerait avec lui une délégation syrienne de haut rang. Le président Assad est arrivé à Hangzhou, dans l'est du pays, où il assistera samedi à la cérémonie d'ouverture des Jeux asiatiques. Lui et d'autres dirigeants étrangers y rencontreront ensuite le président chinois Xi Jinping. Le président syrien se rendra également à Pékin pour discuter de questions bilatérales et de l'aide de la Chine à la reconstruction de son pays ravagé par la guerre. Un collectif d'une centaine de citoyens européens vivant au Burkina Faso, dont des Français, ont déploré des mesures prises par la France contre ce pays, se disant victime de l'escalade des hostilités diplomatiques entre Ouagadougou et Paris. Notre collectif d'une centaine de citoyens français et européens résidant au Burkina Faso, subissant des effets de l'escalade des hostilités diplomatiques, exprimons notre profonde désapprobation par rapport aux positions et décisions du gouvernement français vis-à-vis du Burkina Faso au cours des dernières semaines, lesquelles ont d'importantes répercussions sur le vivre ensemble dans ce pays, indique-t-il dans une lettre ouverte adressée au gouvernement français, citée par l'agence France Presse. L'arrêt de la délivrance de visa aux ressortissants burkinabés, le classement de l'ensemble du pays en zone rouge, la suspension de l'aide publique au développement et de la coopération, y compris culturelle, ainsi que la réduction des effectifs consulaires a des conséquences graves, ont-ils estimé. Au Niger, le président déchu a fait appel au tribunal du bloc ouest-africain pour le libérer. Mohamed Bazoum a déposé une plainte auprès du tribunal de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Son avocat affirme que la poursuite est fondée sur son arrestation arbitraire et la violation de la liberté de mouvement. Mohamed Bazoum a été renversé par l'armée nigérienne le mois dernier et il est depuis assiégé à résidence avec sa femme et son enfant. La CEDEAO a menacé d'intervenir militairement au Niger si les efforts diplomatiques visant à ramener Mohamed Bazoum au pouvoir échouaient. Le Niger est l'une des 6 anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest à avoir fait face à un coup d'État militaire au cours des 3 dernières années. Et enfin, la Russie estime avoir détruit 19 drones ukrainiens dans la nuit au-dessus de la région de Crimée et de la mer Noire environnante. L'armée russe a ajouté que 3 autres véhicules aériens sans pilote avaient également été abattus ailleurs. Les attaques de l'Ukraine contre la Crimée se sont récemment intensifiées, alors que Kiev s'est engagé à reconquérir la péninsule de la mer Noire qui a rejoint la Russie après le référendum de 2014. Pendant ce temps, des explosions ont pu être entendues à Kiev après une alerte aérienne jeudi. Des responsables ont déclaré que des débris de missiles étaient tombés dans le centre de Kiev et que des bâtiments non résidentiels avaient été endommagés dans l'est, provoquant un incendie. Des explosions ont également été signalées dans plusieurs autres régions ukrainiennes. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter le commentaire politique d'aujourd'hui.
Le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, a déclaré que la libération de 5 prisonniers américains des prisons en Iran témoignait des motivations humanitaires de Téhéran. Dans une interview à CNN le 20 septembre, le président iranien a déclaré « Je pense que cet accomplissement a rendu les familles des prisonniers heureuses et a permis de montrer nos réelles motivations et efforts humanitaires. » Deux jours auparavant, Téhéran a autorisé le retour aux États-Unis de 5 citoyens américains condamnés par les tribunaux iraniens dans le cadre d'un accord d'échange de prisonniers entre les États-Unis et la République islamique d'Iran. De ce fait, 5 prisonniers iraniens ont également été libérés par Washington. Le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, a noté que ces 5 Américains avaient commis des crimes, mais que les citoyens iraniens étaient injustement emprisonnés aux États-Unis. L'accord annoncé pour la première fois début août a été conclu lundi après que le Qatar, qui a servi de médiateur, a confirmé le transfert de quelques 6 milliards de dollars de fonds iraniens depuis la Corée du Sud, où il était resté bloqué pendant plusieurs années en raison des sanctions américaines. Nous resterons certainement fidèles à notre conviction. L'objectif est de dépenser ces fonds pour répondre aux besoins du peuple iranien, a-t-il déclaré. Farid Zakaria de CNN a interviewé le président iranien à New York, où il séjourne depuis le début de la semaine, pour assister à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République islamique d'Iran a prononcé un discours devant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies mardi soir, 19 septembre. Il a vivement critiqué les États-Unis pour leurs efforts continus, mais infructueux, visant à exercer une pression sur la nation iranienne en lui imposant de lourdes sanctions.
Tous, bienvenue ici dans les studios de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour étant la venue du président Raisi, président de la République islamique d'Iran, à New York pour le 18e anniversaire concernant l'Organisation des Nations Unies. Alors le débat d'aujourd'hui concerne donc le discours du président iranien, M. Raisi, notamment les différents points qu'il a abordés. Il a notamment abordé le point du terrorisme, le point de la guerre en Ukraine, le point des sanctions concernant le monde occidental contre l'Iran, le fait qu'une guerre froide entre le bloc Est ou Ouest serait inutile. Ce sont les différents thèmes et sujets donnés dans le discours du président iranien. Alors tout d'abord, nous allons faire venir nos invités, qui sont aujourd'hui M. Bernard Cornu. Bonjour M. Cornu et bienvenue ici dans les plateaux de Presse TV.
Bonjour à vous et bravo pour ce discours. Je l'ai lu en entier sur le site de la présidence iranienne.
Alors, merci M. Cornu. Je propose directement notre deuxième invité également, je l'annonce. M. Amrouni, bonjour M. Amrouni, ravi de vous avoir avec nous. Merci également de partager votre expertise concernant ce fameux discours qui a beaucoup d'enjeux géopolitiques. Et notamment, M. Raisi est arrivé extrêmement bien préparé d'un point de vue diplomatique, avec différents sujets bien tablés, bien préparés. On pense notamment au fait que l'Iran a beaucoup travaillé au niveau de sa diplomatie dans la région et qu'il est venu face donc à ces délégations devant tout New York, expliquant que l'Iran est loin d'être un pays qui cherche à travailler en solo. C'est même le contraire, et cette dernière année de diplomatie l'a prouvé. Monsieur Amrouni, on commence par vous. Qu'en pensez-vous que vous pensez des différents points abordés, notamment concernant cette diplomatie iranienne extrêmement bien préparée face à ces autres délégations?
Bonjour à vous et à votre cher invité et à tous les téléspectateurs. C'est un discours clair, ferme et, comme on dit dans la presse occidentale aujourd'hui, virulent. Donc c'est vraiment aujourd'hui le président Raisi, au plan personnel, prend un statut d'un président à l'international. C'est un discours bien préparé, bien détaillé, ouvert, mais en même temps, il montre les principes fondamentaux de la République islamique iranienne, de la révolution islamique, et le rôle de stabilisation politique et de la sécurité et du développement économique de l'Iran dans la région et dans le monde. Donc c'est un discours fondateur, j'ose dire, de la deuxième vie de la République islamique d'Iran et de la révolution islamique, puisqu'il a parlé du peuple, il a parlé des représentants de ce peuple, les anciens présidents, le président martyr Rajaï, le général Qasem Soleimani, un des héros de la révolution islamique iranienne et du peuple iranien, et aussi des États-Unis. Donc l'Iran, dans les discours de Raisi aujourd'hui, se présente comme le garant de la sécurité régionale et comme un acteur majeur de la sécurité et du développement dans le monde. Donc ça, c'est un nouveau discours. Ce n'est pas un discours idéologique, c'est un discours fondateur du rôle géopolitique de l'Iran d'aujourd'hui.
Oui, on peut le dire, le discours du président Raisi est également avec un vocabulaire extrêmement international, un discours que n'importe quelle culture peut admettre et peut comprendre, étant donné que ce sont des mots vraiment très généralisés, où il indique, où il reprend les actes comme le terrorisme, il reprend les actes comme la diplomatie. Monsieur Cornu, quand on revient sur la diplomatie iranienne, cette semaine, non seulement il y a eu ce discours, non seulement il y a eu ce 18e anniversaire, mais également c'est passé des événements importants ici dans la région du Moyen-Orient, puisque Riyad a décidé d'essayer d'avancer sur le programme de paix avec le Yémen en indiquant qu'il ne se dérait plus des États-Unis pour trouver un compromis avec les Yéménites, chose qui est en 10 ans depuis ce début de conflit n'est jamais arrivé. Il y a plein de choses, notamment avec ce discours finalement vient finaliser une diplomatie qui finalement vient dire: vous voyez, l'Iran n'est pas ce pays dangereux pour la région. L'Iran l'a prouvé et voici les résultats.
Oui, tout à fait. Vous faites allusion à l'invitation par le Royaume saoudien d'une délégation des opposants yéménites, des Houthis, pour discuter comment prolonger le cessez-le-feu, comment arriver à la paix.
Est-ce qu'il ne faut pas oublier que le monde occidental a reproché officiellement à l'Iran, a reproché finalement à l'Iran de venir attiser le feu entre donc l'Arabie saoudite, les Émirats et le Yémen. Et là, finalement, qu'est-ce qui se passe? L'Arabie saoudite dit: nous ne voulons plus de personnes entre les Yéménites et nous. Nous voulons directement avoir un discours, avoir des discussions avec les Yéménites eux-mêmes. Là où même des sujets comme le paiement des salaires ne pouvaient pas aboutir.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous citez la déformation que l'on trouve en Occident, dans les médias et dans certains discours politiques au sujet de l'Iran. Et d'ailleurs, le discours du président Raisi en parle assez longuement. Il cite aussi toute la déformation des faits, la présentation de fausses informations qu'a l'Iran a subi l'année dernière et qui, hélas, continue d'ailleurs dans les journaux occidentaux.
Alors, monsieur Amrouni, vous-même, vous l'avez dit plusieurs fois sur ce plateau, comme quoi vous êtes souvent venu en Iran, vous avez souvent vu comment vivaient les Iraniens. Monsieur Raisi, dans son discours, a annoncé que malgré les interventions extérieures face aux manifestations de l'année dernière, où il y a eu des actes terroristes prouvés avec du matériel, avec des actions et malheureusement des morts dues à des actes terroristes. On a vu également le Kurdistan irakien, l'Irak, prendre de manière très sérieuse les avertissements de l'Iran, faire un pacte de sécurité également. Et le discours de M. Raisi a également transcendé cette situation en disant « Voyez ce que vous avez fait, voyez ce qu'au bout d'un an, ce qui s'est réellement passé. » En plus, cet anniversaire de 78e anniversaire arrivé au même moment, un an après donc, la mort de cette pauvre Mahsa Amini, où l'Iran a bien annoncé que c'était un accident. M. Raisi a eu plusieurs discours durant la semaine devant les journalistes américains et dans mon discours a rappelé que l'interventionnisme américain, l'interventionnisme européen n'a pas fonctionné en Iran.
Bien sûr, il a démontré que tous les plans de déstabilisation ont échoué. Et il y aura d'autres plans, ça c'est certain, parce que l'ennemi majeur de l'Iran, c'est les États-Unis. Et il l'a dit, c'est-à-dire il l'a répété, le président Raisi, il a même dit que celui qui a signé la mort du général Soleimani, c'est le président des États-Unis, Donald Trump. Donc c'est cette fierté, cette assurance, cette rassurance dans le discours politique, c'est ça ce qu'il faut noter aujourd'hui. L'Iran d'aujourd'hui, elle est un acteur majeur dans les relations internationales. C'est ça ce qu'il faut noter très, 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 très bien. L'Iran aujourd'hui a les moyens politiques, a les moyens technologiques, a les moyens humains pour imposer, et je dis bien, je pèse bien mes mots, pour imposer son point de vue de stabilisation. Sinon, c'est-à-dire, on va vers l'affrontement. Deux, il a montré et démontré dans son discours que l'Iran n'est pas avec les guerres. On ne trouve pas les solutions par les guerres, que ce soit les guerres contre l'Iran, que ce soit les guerres en Irak, en Afghanistan ou la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les Européens disent on va continuer les sanctions car l'Iran aide la Russie contre l'Ukraine, alors que c'est faux. C'est-à-dire que l'Iran, aujourd'hui, elle n'est pas pour la guerre russo-ukrainienne, elle est pour la stabilisation de la région. Donc, ce discours fondateur, moi je dis bien que c'est un nouveau discours de l'Iran, c'est un discours fondateur d'un nouvel ère, un ère de force, mais de paix, un ère de fermeté, mais d'ouverture. C'est-à-dire, nous sommes ouverts à toute discussion, y compris indirectement avec les Américains. Nous sommes sur notre principe de libérer la Palestine. Donc, on réaffirme notre engagement, l'engagement de la révolution islamique iranienne et de la République islamique représentée par le président Raisi en faveur du peuple palestinien. Mais pas seulement, il a invoqué, par exemple, le peuple canadien, il a invoqué l'Afghanistan, il a invoqué d'autres populations dont il faut venir en aide vers ces populations. Il a même parlé de la mondialisation de la justice.
Il a, en effet, pour revenir donc à ce discours, il a décrié ce bloc Est-Ouest, comme le veut son discours. Il a dit qu'on n'a pas besoin de passer par une guerre froide. Le mot même guerre froide est négatif et toxique dans cette situation de nouvel ordre mondial. C'était le discours, donc, monsieur Raisi. Je vous laisse continuer, monsieur Amrouni.
Tout à fait. Il a insisté sur le fait aujourd'hui. Le monde doit être gouverné pas par 5 pays, il faut qu'il soit gouverné par tous les pays qui arrivent et qui peuvent venir en aide aux autres populations. Aujourd'hui, 90% du monde vit dans la pauvreté, 10% ils ont toute la richesse du monde. Donc je reviens à ce discours, moi-même j'ai suivi tous les discours de tous les présidents de la République islamique d'Iran sur 40 ans, eh bien, ce discours, c'est un discours fondateur. Il m'a rappelé le discours de Ayatollah Ali Khamenei lorsqu'il était président. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre dans ce nouveau discours, que l'Iran, elle sort gagnante de l'affrontement avec la puissance américaine. Et elle demande à cette puissance américaine de venir discuter, négocier, mais pas dans la pression américaine, dans l'intervention américaine, dans l'ingérence américaine. Il a même évoqué que cette guerre en Ukraine, elle est défavorable aux Européens et que l'Amérique n'a pas d'amis aujourd'hui. Donc c'est un discours fondateur de géopolitique, c'est un discours nouveau. Je dis très bien, c'est un discours ferme. Tous les médias ici en Occident, ils ont dit que c'est un discours virulent. Et c'est un discours ouvert en même temps, ouvert sur les voisins, que ce soit turcs, indiens, pakistanais, arabes, mais aussi ouvert vers les Européens. Par contre, il est ferme en disant aujourd'hui, on a, malgré les sanctions, l'embargo, les assassinats, les plans de déstabilisation, nous sommes là, nous sommes acteurs majeurs dans notre région, nous sommes leaders dans le monde islamique, avec l'Arabie Saoudite, avec la Turquie. Donc c'est un nouveau monde, mais on est prêt à l'affrontement comme on est prêt à la négociation.
Merci Monsieur Amandi. Monsieur Cornu, alors vous-même, vous êtes auteur de plusieurs articles, vous êtes souvent analyste ici avec Presse TV, l'actualité internationale, l'actualité donc du Moyen-Orient, ce n'est pas un secret pour vous. Alors quand vous voyez le discours de Monsieur Reissi, sans prendre donc au mot terrorisme, à la discrimination du mot terrorisme lors de son utilisation, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que peut-être les pays, d'un point de vue international, redemandent une redéfinition ou l'utilisation un autre mot face aux attaques du terrorisme? On pense notamment donc à l'organisation de OMK qui a été accueillie en Europe alors que les preuves de différentes familles vivant en Iran et à l'extérieur de l'Iran ont été prouvées. Donc est-ce que c'est une redéfinition que le président Reissi réclame?
Tout à fait. Hein. Les grandes lignes de son discours, c'est que le monde ne doit plus être gouverné par l'argent, par la violence, par la force, en toute impunité, par l'action des services secrets, mais le monde doit être gouverné maintenant par la justice, par la coopération, surtout au niveau régional. Et il a ajouté d'ailleurs ce mot de convergence, c'est-à-dire la convergence des politiques sociales, des politiques fiscales, pour que les frontières soient de plus en plus, disons, un facteur de paix, d'union. Et là où je peux un peu nuancer l'appréciation de M. Amrouni, c'est que l'Iran ne se pose pas en leader, il se pose en participant à un effort d'unité et de convergence dans la région. Et évidemment, pour l'islam qui domine cette région, mais qui n'est pas une exclusivité, il y a d'autres religions dans la région, mais l'Iran a une religion principale et la République islamique porte ceci dans son nom. Donc ça explique ce propos du président. Moi-même, je suis laïque, je suis dans un pays, la France, qui est laïque. Et donc, mais en revanche, ces concepts d'humanisme, d'humanité, de justice, de convergence des politiques sont très importants et sont l'essentiel du discours. Ce principe de coopération et non pas de guerre ou d'affrontement, c'est aussi très important.
Donc, Monsieur Reissi,
le projet de la violence et du terrorisme, c'est vrai que ça nécessite une définition parce que moi-même, j'ai accusé l'État israélien de terroriste, l'Amérique de terroriste, et je disais ça depuis très longtemps. Et on le disait encore hier dans un débat à la télévision française, France 24, un bon débat, où plusieurs personnes ont rappelé que la guerre illégale de 2003 des États-Unis envers l'Irak est quelque chose qui a détruit le système de l'ONU, puisque un des fondateurs de ce système se permettait de violer la propre règle collective qui a été établie en 1945 pour l'ONU.
Merci, Monsieur Cornu. Alors, vous parliez là de laïcité, puisque vous vivez dans un pays laïque, mais Monsieur le président Reissi, président iranien, a décrié cette laïcité, puisqu'il s'en est pris aux différents actes anti-islamiques, enfin islamophobes, c'est pas anti-islam, c'est islamophobe, donc ça s'appelle de la haine, ça va plus loin que anti-islamique. Il s'en est pris de quoi toutes les actes qui ont été enregistrés cette année, rien que pour l'année 2023, plusieurs actes sont à dénoter. Il y a donc les fameux Corans, mais il y a également les habits, la décréation par le président iranien concernant à s'en prendre aux habits des tenues pour les musulmans. Alors, bien entendu, on sait bien que c'est surtout la situation française qui préoccupait par rapport à ça. Une situation française qui a souvent été prise à partie par la Cour de justice internationale pour ses décisions parfois trop extrêmes dans certaines situations. Alors, est-ce que ça pourrait en pâtir entre la relation française et iranienne, puisqu'on savait qu'en s'en prenant donc à la tenue, le discours de M. Rissi a été extrêmement explicite concernant les tenues islamiques, on pense à l'abaya. Est-ce que donc il pourrait y avoir donc des sujets de dispute entre la France et l'Iran?
Oui, dans le discours, il en parle de façon assez très précise. J'ai apprécié le vocabulaire. Il dit qu'il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de provocations et qu'il y a l'évocation du droit à la liberté d'expression qui est important est contradictoire avec la liberté ou le respect des autres. Donc je crois que c'est un manque de connaissance dans l'Occident des pratiques vestimentaires, des pratiques culturelles, des pratiques religieuses des autres qui fait que certains peuvent exploiter cette méconnaissance pour faire de telles provocations. Donc je pense que autant ceci a généré des tensions, autant le rétablissement du dialogue, une meilleure connaissance des situations des autres, une meilleure coopération permettra d'éviter ce genre de tensions.
Merci Monsieur Cornu. Monsieur Amrouni, qu'en pensez-vous quand il s'en prend donc à la prise, à l'anti-volonté d'accepter la modestie selon les règles islamiques? Est-ce que ça pourrait donc enclencher d'autres sujets de conflit entre l'Europe et l'Iran?
Bien sûr, le conflit principal, ce n'est pas le conflit de l'abaya ou du hijab ou le droit de la femme iranienne dans l'Iran. Le conflit, c'est un conflit de pouvoir, c'est un conflit d'indépendance. C'est-à-dire l'Iran, le peuple iranien et le discours du président Raisi, il a bien déterminé. Le peuple iranien a toujours cherché son indépendance, de gérer lui-même ses affaires. Donc, et il aide tous les peuples de la région et dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, à se libérer du joug de l'Amérique. Parce que même l'Europe, lorsqu'il évoque, et ça c'est un point très important, aujourd'hui il y a de l'ingérence américaine dans les affaires françaises. Aujourd'hui, le peuple français souffre de l'inflation, souffre de cette guerre entre communautés. Il n'y a pas de communauté en France. Il y a un peuple français, il y a des citoyens de la République. Qui a amené cet esprit communautariste? C'est les Américains, ceux qui ont importé leur bouffe, le McDonald's et je ne sais pas quoi. Donc il n'y a plus de spécificité culturelle française. C'est-à-dire même le peuple français, il lutte contre l'ingérence américaine. Aujourd'hui, on n'est plus indépendant dans le monde parce que l'Amérique impose ses valeurs. Et donc le président Raisi, il a montré que si le peuple iranien lutte et donne des martyrs, y compris dans ses leaders, c'est parce qu'il veut sa liberté, son indépendance. Et donc cette indépendance, ce n'est pas simplement dans l'habit, comment les Iraniennes doivent être habillées ou les Françaises doivent être habillées, c'est en respectant les uns et les autres. Et il faut rappeler qu'en France, il y a 10 millions, même plus, de musulmans. Ils vivent très bien leur islam en France, dans la population française. Mais il y a une minorité, un lobby sioniste qui amène, donc par les médias, parce que les médias, il n'y a pas de médias françaises indépendantes en France. Et par ces médias, donc le abaya, le hijab, je ne sais pas quoi d'autre, devient un acteur du discours politique en France. En France, il n'y a plus de droite et de gauche. Il y a celui qui est contre l'abaya et celui qui est avec l'abaya. Et le peuple français, il va payer sa baguette à 3 euros bientôt. Donc, c'est ça la difficulté de comprendre que les conflits dans le monde, ce sont des conflits, pas de non-compréhension, c'est de conflits de pouvoir.
Merci, Monsieur Amrouni. Alors,
l'homme, pendant 2 siècles, il veut imposer son pouvoir. Aujourd'hui, les autres populations, les autres peuples, ils ont dit, nous avons droit de participer avec vous à gérer ce monde.
Merci,
Donc, c'est un demande d'ouverture avec un langage ferme.
Merci, Monsieur Amrouni. Alors, pour finir et finaliser sur ce débat, Monsieur Cornu, en quelques mots, concernant donc, on a senti dans tout ce discours du premier sujet au dernier sujet qui était concernant l'Ukraine, une forme d'indépendantisme de l'Iran. L'Iran veut que ce soit les pays qui viennent vers eux et non plus l'Iran qui vienne vers ces pays-là, qui leur ont imposé des sanctions. On sent bien cette forme du discours. On dit, on vous attend, c'est pas à nous de faire le premier pas, on l'a déjà fait. On a prouvé notre diplomatie, à vous maintenant de faire pareil. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce sentiment qui a régné sur tout son discours? En quelques mots, s'il vous plaît.
Oui, je suis d'accord sur l'ensemble du discours, sur cette critique du système actuel et l'annonce d'un nouveau système basé sur la justice, sur la coopération, sur la convergence. Et je crois que ce qu'a dit le Congrès des non-alignés, qui représente maintenant 134 pays, à Cuba la semaine dernière, a dit à peu près la même chose. Il fallait changer de système. Et c'est vrai que tout ceci est né de l'impérialisme américain, de cette guerre de 2003 illégale qui a rompu complètement la confiance dans le système des Nations Unies. Et nous allons effectivement, c'est les derniers mots du président là ici, vers une nécessité d'une justice universelle où il n'y ait pas d'impunité pour certains chefs d'État, comme ce soit les Israéliens ou les Américains ou les Anglais ou même la France quand elle a attaqué de façon abusive la Libye.
Merci Monsieur Cornu, merci Monsieur Ambroni pour votre expertise du jour, que je rappelle c'était concernant donc le discours tenu par le président iranien, le président Ebrahim Raisi à New York cette semaine. Je vous dis moi à bientôt pour un autre sujet du débat. N'hésitez pas à commenter, poser une question sur notre site internet ou nos réseaux sociaux et à voir ou revoir notre débat dessus. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet de débat ici, dans les studios de Presse TV. Au revoir.
Au revoir, à bientôt.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 19 à 23 du chapitre 46 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Ahqaf. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans notre précédent programme, nous avons lu les versets du Noble Coran qui nous ont appris que l'islam accorde une très grande importance à la famille et aux droits des membres de la famille, les uns par rapport aux autres. De nombreux versets du Saint-Coran portent d'ailleurs sur des sujets liés à la vie familiale. Le Noble Coran s'adresse à l'être humain en général, sans aucune distinction entre les croyants et les non-croyants, quand il s'agit de l'importance du respect envers les parents et tout particulièrement envers la mère. Un homme et une femme de 40 ans, comme le dit le Saint-Coran, est probablement le père ou la mère de ses propres enfants. Mais là encore, il a ou elle a encore des devoirs envers ses propres parents. Dans la vision coranique, ceux qui respectent leurs parents et leur font de la bonté ont une place privilégiée aux yeux du Seigneur. Dieu les logera dans le paradis. Dieu le Très-Haut leur pardonnera leurs péchés et acceptera leurs œuvres bonnes. Dans certaines familles, grandissent des enfants incompétents et injustes envers leurs parents, qui sont une source de problèmes et d'inconfort pour leurs parents, et les blessent avec un langage grossier. Non seulement ils ne respectent pas les droits des parents, mais ils n'acceptent pas non plus leur éducation religieuse. Ces personnes se moquent de leurs croyances religieuses et considèrent les promesses des prophètes divins comme des mensonges. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord le verset 19 de la Sainte Sourate Al-Ahraf. Puis nous vous en donnerons la traduction.
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
Et il y a des rangs de mérite pour chacun selon ce qu'ils ont fait, afin que Dieu leur attribue la pleine récompense de leurs œuvres, et ils ne seront point lésés. Au jour de la résurrection, les humains seront récompensés ou châtiés selon ce qu'ils ont réalisé pendant leur existence dans ce bas monde. Les croyants et les pieux seront logés dans le paradis céleste, tandis que les mécréants et les pécheurs seront condamnés au châtiment éternel dans l'enfer. La justice sera établie parfaitement. Et personne ne subira une oppression quelconque. Ce verset nous apprend que dans l'autre monde, le sort de chaque individu sera déterminé d'après ce qu'il a accompli lui-même de bien et de mal. Dans l'au-delà, chaque personne verra les fruits qu'apporteront ses actes pendant son existence dans ce bas monde. Voici maintenant le verset 20 de la sourate Al-Ahqaf.
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ.
Et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu, il leur sera dit : vous avez dissipé vos biens excellents et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant pour l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre, et pour votre perversité. Le jour où les mécréants et les pécheurs seront jetés dans l'enfer, il leur sera dit que ce mauvais sort est le résultat inévitable de leur perdition et de leur tentation pour les désirs de ce bas monde, mais aussi de leur désobéissance au Seigneur et à son messager. Au jour du jugement dernier, il n'y aura aucun refuge pour eux et rien ne les protégera contre l'établissement de la justice. Ce verset du noble Coran nous apprend que la foi en Dieu et la piété ne sont pas des conditions sine qua non pour que les humains profitent ou non des bienfaits et des plaisirs matériels de ce monde. mais la désobéissance et la mécréance sont des éléments de la privation des humains de la miséricorde divine dans l'autre monde. Écoutons enfin les versets 21 à 23 de la sourate 46 du noble Coran.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.
Et rappelle-toi le frère de Had, Hud, quand il avertit son peuple à Al-Ahqaf, alors qu'avant et après lui, des avertisseurs sont passés en disant « N'adorez que Dieu, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Ils dirent « Viens-tu à nous détourner de nos divinités ?» Eh bien, apporte-nous ce que tu nous permets si tu es du nombre des véridiques. Il dit, la science n'est qu'auprès de Dieu. Je vous transmets cependant le message avec lequel j'ai été envoyé. Mais je vois que vous êtes des gens ignorants. Le Saint-Coran rappelle un épisode de l'histoire du prophète Ad, Houd, qui appelait son peuple à adorer le Dieu unique et à éviter l'adoration des idoles et de commettre les péchés. Les mécréants l'accusèrent de vouloir les détourner de leur fausse divinité et lui demandèrent des preuves pour leur montrer qu'il est véridique. Le messager de Dieu leur répondit qu'il n'était qu'un messager du Seigneur et que la science était entièrement auprès de Dieu. Ces versets nous apprennent que la mission des messagers de Dieu consistait à appeler les gens à adorer Dieu le Très-Haut et à se soumettre à sa volonté. Les prophètes avaient tous la même mission et il y avait une complémentarité dans leur mission. Chers auditeurs, ici s'achève la voie de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 46 du noble Coran, la sainte sourate Al-Ahqaf. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.